Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean-Antoine Pajot et Jean-Philippe Marceau. Cette émission parle beaucoup de politique, mais de temps en temps, j'ai envie de revenir à un sujet vraiment symbolique puis religieux. Puis comme sujet, en plus, ben, on va dire on ne peut pas s'éloigner du Québec complètement. Là, je veux parler du chapelet, puis spécialement du symbolisme chiastique dans les chapelets. C'est quelque chose qui m'a honnêtement surpris là, quand j'ai remarqué ça. Les chiasmes, j'ai surtout appris la structure puis appris à la reconnaître à cause de notre ami Cormac Jones, qui s'occupe du blog en anglais puis qui a publié plusieurs articles assez surprenants sur des chiasmes dans la Bible et dans l'histoire. Puis, à un moment donné, en faisant le chapelet, ben, j'imagine que la plupart des gens vont avoir une idée un petit peu c'est quoi le chapelet, mais c'est une dévotion catholique d'une origine obscure. Puis en fait, c'est pas un hasard là, pour ce que je veux dire. C'est pas clair exactement comment c'est arrivé. Là. Surtout la série de mystères qu'on va dire. Donc, ce qu'on fait quand on prie le chapelet, c'est comme une prière d'introduction et de conclusion, mais le cœur, c'est de dire 5 fois « Dis, je vous salue Marie » dans un chapelet. Puis, chaque série de « Dis, je vous salue Marie » a un mystère de la vie de Jésus associé avec. Puis, traditionnellement, ce qui a émergé il y a 1000 ans environ, d'une façon obscure, on ne sait pas trop exactement c'est d'où la liste est arrivée, c'était 5 mystères joyeux qui ont rapport à la naissance du Christ, 5 mystères douloureux qui ont rapport à la passion, puis 5 mystères glorieux qui ont rapport à la résurrection et la Pentecôte.
Peut-être tu peux expliquer avant d'aller trop loin dans ça, de peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un chiasme, et puis t'expliquer aux gens.
Oui, on va commencer. En fait, on va commencer avec quelque chose de simple, là, qui n'est même pas un chiasme du chapelet en tant que tel. Puis j'essaie de partager mon écran.
OK.
Donc, je vais commencer avec un chiasme très simple. Ça semble être comme une structure assez fondamentale de la mémoire puis de l'attention humaine. Mais un exemple qu'on veut prendre de la Bible de chiasme, c'est quand tu as une structure qui a un début, une genèse, ensuite un genre de distinction. Ensuite, voir un renversement, puis on va retraverser les mêmes étapes, mais avec une différence. Donc, j'ai pris un exemple ici de la structure de l'histoire dans la Bible. Ça commence avec la Genèse dans un jardin, le début de l'histoire. Ensuite, il va y avoir un genre de distinction qui va se faire. Donc, par exemple, avec la loi qui va séparer les Juifs du reste des nations. Puis ensuite, il va y avoir un renversement, l'incarnation dans ce cas-ci où Dieu va descendre jusqu'au plus bas de la création. Puis après ça, on va comme retraverser les étapes. Puis au lieu d'avoir, par exemple, la séparation entre les Juifs et les Gentils, on va avoir l'unification dans l'Église. Puis on va refinir à nouveau dans un jardin. Mais là, c'est la structure de l'Apocalypse. On termine l'histoire. Donc, un genre de retour au début, mais avec quelque chose qui a été gagné. Puis c'est une structure assez commune dans les histoires. Le schéma du héros de Joseph Campbell, par exemple,
ouais, c'est un peu ça.
Ce genre d'histoire-là.
Dans les psaumes, il y a beaucoup des psaumes qui sont structurés comme ça. Le psaume au complet, des fois, les versets eux-mêmes. Ça peut aider des fois à saisir. Des fois, on dirait que la façon dont les psaumes, c'est écrit, des fois, ça peut un peu confondre. Mais quand tu réalises que c'est un chiasme, tu peux voir qu'il y a comme un sorte de reflet qui se file comme un miroir un peu.
Oui, exact. Puis je vois comme deux façons d'utiliser les chiasmes. Il y a une qui est un peu plus académique. On dirait que c'est comme quand tu étudies un texte, par exemple, comme tu as mentionné les psaumes, c'est utile de prendre le temps de te faire une genre de carte parce qu'après ça, tu vas beaucoup mieux te rappeler de l'ensemble de la structure quand tu vas être en train de prier, par exemple, les psaumes. Mais il y a aussi une utilisation qui est beaucoup plus implicite puis faite autour de chiasmes simples où la plupart des gens vont utiliser des structures comme ça sans trop s'en rendre compte.
Oui. Mais même dans la vie de tous les jours, ce qu'on réalise pas comment qu'on fait un chiasme, tu sais, dans le fond, c'est que aussi une conversation, ça a cette structure-là, tu sais, c'est-à-dire tu as deux termes, puis là, deux points de vue, puis tu sais, il y a comme un sorte de reflet, tu sais, puis des fois, les gens, par exemple, la personne va prendre le point de vue opposé, on dirait par nature, tu sais, il y a comme une sorte de désir de montrer l'envers de la chose qui est mentionnée, puis que, tu sais, en fond, c'est ça, ça crée comme une sorte de reflet de la totalité, là.
Ah, fait que tu veux dire, mettons, comme un contre-argument? Est-ce que...
Oui, non, ça dit même quand tu parles avec quelqu'un, des fois, tu peux le sentir que l'autre personne, elle va juste naturellement voir dans ce que tu dis, tu sais, disons, elle va voir comme un peu l'autre côté, puis là, elle va avoir tendance à parler d'une façon pour ramener comme le reflet, on pourrait dire.
Ouais, ok, je comprends ça. Comme la distinction, je sais pas, peut-être en consensus avec quelqu'un, plutôt avec une certaine thèse, puis là, l'autre personne, spontanément, se fait un genre d'avocat du diable, prendre le point de vue opposé pour créer une distinction, puis ensuite, il finit par avoir un genre de, idéalement, un genre de surprise, de renversement quelque part qui permet d'aligner les choses. Ouais, ça, tu peux comme retraverser les arguments qui ont été dits, mais les amener à une conclusion.
Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est juste pour dire que c'est dans le fond, c'est une structure de base, tu sais, c'est comme inspirer, expirer, tu sais, c'est ça, c'est une structure qui est plus que juste au niveau des... C'est pas juste qu'une sorte de geste esthétique, mais c'est vraiment une structure qui est cosmique, là, qui est, comme tu dis, c'est la descente et le retour, là, tu sais, c'est la structure de base du Hero's Journey, là.
Puis, on va voir ça spontanément dans plein d'histoires qui ont été préservées à travers les générations, parce que, comme on dit, c'est une structure cosmique, l'attention, la mémoire humaine a ce genre de structure-là. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve, par exemple, dans le chapelet. Comme j'ai mentionné plus tôt, le chapelet a une structure chiastique qui a émergé vraiment par piété populaire, là. Il y a comme personne qui essayait, tu sais, d'imposer ça. Puis, ça fait que, spontanément, les séries de mystères sont arrivées comme ça, où c'est fascinant, je trouve, parce que chaque série est un chiasme en cinq parties, mais aussi, si tu prends les trois ensemble, ils font aussi un chiasme. Puis, c'est possible de les voir comme ça, puis c'est possible aussi de les voir d'une façon plus académique, je dirais, là, que je pense que ça, c'est moins dans la tête des gens, mais si tu mets vraiment les 15 ensemble, ils font aussi un chiasme où il y a des références assez directes entre comme les parallèles. Ça veut dire pour les gens qui ont pas leur écran devant eux, mais si tu compares du début à la fin les 15 autour du mystère central qui est le couronnement d'épines, tu vois qu'il y a toujours un parallèle à faire. Donc, ça, on pourrait y revenir, mais je trouve ça intéressant de montrer comme ces deux structures, ces deux façons-là de faire des chiasmes parce que, disons, ça, ce que je viens de montrer, les 15 avec les parallèles dedans, ça, c'est vraiment plus académique, à mon avis, là, puis là, t'es moins dans la mémoire humaine parce que c'est vraiment dur d'avoir 15 choses en même temps dans ta tête, là. Même si tu pries, par exemple, tu fais une journée où tu fais vraiment comme les trois chapelets qui constituent un rosaire, là. Un rosaire, c'est comme de dire toutes les trois chapelets traditionnels l'un après l'autre. Même si t'es fait tous ensemble, c'est dur d'avoir les 15 dans ta tête, toute cette structure-là. C'est plus un exercice, je dirais, comme académique ou pieux que tu fais une fois que tu es assis comme intellectuellement, alors que de avoir trois séries de cinq, c'est beaucoup plus facile à avoir dans sa tête, là. Comme de savoir qu'il y a un chiasme entre les mystères joyeux et douloureux autour, excuse, entre les mystères joyeux et glorieux autour des mystères
C'est quoi
douloureux.
le recouvrement? Je sais même pas c'est quoi.
Recouvrement, c'est le recouvrement de Jésus au temple.
Ah, oh, ok, oui, je comprends. Ok, ça veut dire que quand Jésus il reste avec les anciens là.
C'est ça, exact. Fait que, on peut passer
Ben oui.
à travers ça. Mais ce que je voulais faire, comme juste pour cadrer, parce que je sais que des fois, c'est un contre-argument que les gens vont dire face au chiasme, c'est que c'est trop abstrait, disons. Parce que tu peux trouver, c'est assez époustouflant, disons, intellectuellement ou d'un point de vue, je sais pas, abstrait, des gens qui ont vraiment fait des chiasmes très compliqués à travers des gros livres de la Bible. Là. Par exemple, tu prends, je sais pas, le Cantique des Cantiques, puis là, tu maps comme une structure linéaire immense, un peu comme le chapelet ici, mais vraiment plus gros, certaines structures dans la Bible, mais les gens n'ont pas vraiment ça dans leur tête, là, je pense. Versus si tu brises les chiasmes en plusieurs petites structures, comme ce que j'ai ici, là, ça ressemble beaucoup plus à la structure normale de l'attention humaine. De savoir que tu as trois chapelets qui font un chiasme, puis de voir que dans chacun des chapelets, il y a un chiasme, ça, c'est possible d'avoir ça dans ta tête.
Ouais, puis l'idée, c'est aussi de dire que parce que c'est une structure naturelle, c'est fractal, c'est comme toutes les structures. Mais à ce moment-là, il y a comme quelque chose, il y a comme une intuition naturelle qui va faire que la tendance de s'organiser de cette façon-là, elle va se faire. C'est pas nécessairement un besoin de comment je pourrais dire, c'est pas vraiment nécessairement juste un besoin de l'organiser, là, tu sais, ça se fait un peu naturellement. Puis aussi, c'est relié souvent, puis c'est ça le problème. Ça, c'est important de le dire, c'est que souvent les gens vont dire, oui, mais c'est OK, tu sais, des fois, ils vont dire, mais c'est juste forcé, c'est-à-dire, tu nommes les événements, puis là, tu regardes l'événement, puis tu essaies de trouver comment que l'événement fit dans le chiasme. T'as sûrement déjà entendu des gens qui peuvent faire des arguments comme ça. Puis, tu sais, dans le monde du symbolisme, la réponse, c'est ben oui. C'est-à-dire, c'est pas un problème de réaliser que pouvoir trouver que ça a du sens, pour pouvoir trouver que c'est intéressant, pour pouvoir trouver que ça a, que c'est conséquent, ben on va avoir en effet tendance à faire ça, mais ça, ça exprime aussi une réalité de comment le monde se manifeste, puis que c'est pas, ça n'en fait pas quelque chose de totalement arbitraire.
Ouais. Mais je pense aussi, ça va. Il y a toujours des gens qui trouvent des façons d'être sceptiques, on dirait, à tout le sens qu'on trouve, mais une fois que tu réussis à trouver assez de parallèles, à un moment donné, ça devient quand même convaincant. Dernière chose que je dirais là-dessus, c'est je mentionne les trois séries de mystères joyeux, douloureux, glorieux. Il y a une autre série de mystères qui a été ajoutée récemment par Jean-Paul II dans les années 80, le mystère lumineux, qui, eux, sont pas un chiasme, en fait. Donc, ça, c'est... je pense parce que ça, c'est pas émergé des piétés populaires... par la mémoire des gens. Fait qu'en fait, pis c'est pas par hasard. Honnêtement, c'est tout le temps lui, j'ai de la misère le plus à me rappeler c'est quoi les mystères. Parce que c'est, tu sais, je pense qu'il y avait des bonnes raisons de faire ça, puis tu sais, je l'ai pris quand même, puis je connais plein de gens qui prient ça. Sauf que c'est, vu que ça vient pas de piété populaire, ben c'est pas un chiasme, puis ça fait pas non plus un chiasme avec les autres, donc c'est beaucoup plus dur de s'en rappeler.
Ah ouais, intéressant.
Ouais. Mais là, on peut parler des chapelets traditionnels. Donc, on va commencer avec les mystères joyeux. Donc, ça, c'est tout centré sur la nativité. Donc, la première partie, c'est l'annonciation. Donc, là que l'histoire commence, Marie reçoit l'annonce de l'ange qu'Israël va être sauvé, qu'elle va recevoir Jésus, etc. Puis ensuite, l'épisode qui vient après dans les mystères, c'est la visitation, où là, Marie va visiter sa cousine Élisabeth. Puis ça, on peut voir ça comme... c'est analogue à la loi que je disais tantôt, là, où il y a une composition d'hymne. Il y a Marie et Élisabeth qui vont chanter le Magnificat. Aussi, Élisabeth, c'est la femme de Zacharie, qui est le grand prêtre. Fait que là, on est comme inscrit dans la loi. Ça ressemble à la structure qu'on avait plus tôt, là aussi. L'Annonciation puis la Genèse, ça se ressemble. Donc, c'est la structure
juste. Il y a aussi dans cette structure-là, ce qu'on voit, c'est la reconnaissance des autorités. Parce que, tu sais, l'idée que Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, bouge dans son ventre, c'est pour démontrer que voici le prophète, le fils du prêtre, reconnaît le Messie, dans le fond. Puis là, si on regarde, tu sais, quand on pense au chiasme déjà, on peut voir que dans la présentation, c'est ça aussi.
Oui, oui. Puis, continuons là-dessus, là, où le chiasme va s'articuler autour de la nativité. La nativité, c'est une inversion parce que t'as Jésus qui est Dieu, qui vient s'incarner sur Terre, puis représenté dans une étable, dans une grotte.
Le plus bas, oui.
Ouais. Donc, t'as le flip qui se passe à ce moment-là. Donc, après ça, on va retourner les étapes. Où, quand Jésus va être présenté au temple, c'est pas tout le monde qui le sait, mais les deux prophètes qui sont là, c'est Siméon et Anna, ils viennent je me rappelle plus c'est lequel qui vient d'où, mais ils sont des représentants des deux tribus, des deux groupes d'Israël du Nord et d'Israël du Sud qui ont été séparés en deux. C'est un genre de réunion qui se fait. On était plus dans la loi, dans la séparation à l'épisode de la visitation, mais là, ça va être... la réunion va commencer avec la présentation de Jésus au temple.
Mm-hmm.
Et après, ouais. Quand... l'épisode du recouvrement, c'est, on se rappelle là, quand, à un moment donné, quand Jésus a 12 ans, Joseph et Marie s'en vont avec Jésus au temple, puis ils repartent chez eux en pensant que Jésus est avec de la famille. Puis, finalement, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là, puis ils le retrouvent 3 jours plus tard au temple. Donc, il y a eu une allusion claire avec la résurrection qu'on va voir plus tard.
Mais c'est quoi le moi je vois, j'avoue que j'ai la misère à voir le lien avec l'Annonciation. C'est quoi le parallèle avec l'Annonciation?
Ouais, ben avec l'Annonciation, on avait il y a encore, disons, là c'est je pense que c'est lui qui est le plus, disons, faut le voir comme eschatologique, là, où on a la révélation que Jésus je pense qu'il faut dire qu'on a le bon ordre aussi. Jésus est retrouvé, j'ai oublié de le dire, Jésus est retrouvé avec les docteurs de la loi et les prêtres. Puis là, c'est lui qui pose les questions puis qui impressionne tout le monde. C'est un genre de début d'ordre qui est replacé, qui était promis à l'Annonciation. C'est pas encore complètement réglé comme ça va l'être plus tard, là, mais l'ordre qui commence à être replacé. Quand Jésus est retrouvé au temple, il parle de son père au ciel, puis il commence à avoir la place de premier plan au temple, même si c'est pas encore.
Oui, c'est vrai que c'est là qu'il dit que j'ai fait la volonté de mon père.
Donc ça commence. Ça va devenir plus clair. Je pense qu'on va parler de toutes les autres choses ensuite. Mais ça, c'est donc, le premier casse autour de la nativité. Ensuite, il y a les mystères glorieux, les mystères douloureux qui arrivent. Je pense que c'est une façon de le présenter qui serait peut-être plus simple chiastiquement. C'est que je commence par le X, le milieu, là, au lieu d'y aller chronologiquement comme on vient de faire. Donc, l'inversion autour des mystères douloureux, c'est le couronnement d'épines. Donc, là, t'as Dieu qui est vraiment comme le roi du monde, mais qui est moqué, qui est couronné avec la malédiction. Donc, t'as l'union du plus haut avec le plus bas. Puis, autour de ça, on va avoir la structure du casque. Donc, je pense après ça, la meilleure place à regarder, c'est le début et la fin de ce casque-là. Ça commence avec l'agonie dans le jardin, puis ça finit aussi avec la crucifixion dans un jardin. Dans le cas de l'agonie, c'est, disons, on peut dire le début de la Semaine Sainte, la genèse de la Semaine Sainte. Puis, ça va être réconcilié ça va être terminé, consommé dans la crucifixion. Puis, l'étape de division puis de réconciliation, on peut le voir dans la flagellation et le portement de la croix, qui sont respectivement comme de subir une souffrance, puis ensuite d'intégrer la souffrance. Dans le cas de la flagellation, Jésus, disons, est attaché à un poteau. Il subit passivement ses souffrances, mais après le couronne d'épines, après le chiasme, là, c'est lui qui activement, comme porte, on peut dire, commence à s'approprier la souffrance. Puis ça va être consommé dans la crucifixion. Donc, puis il y a des parallèles plus précis qu'on peut dire. Là, je vais zoomer tout de suite autour de l'immense chiasme, parce qu'il y a plus de de notes qu'on peut voir ici. C'est sûr qu'il y a les plaies, les meurtrissures liées à la prophétie de Isaïe 53 dans à la fois la flagellation et le portement de la croix. Dans un cas, comme j'ai dit, c'est passif, l'autre, c'est actif. Mm-hmm. Il y a le bois slash la colonne les deux fois. Puis, c'est vrai qu'il y a une distinction aussi entre ce qui se passe dans la ville versus à l'extérieur de la ville. Donc, tu peux voir des parallèles entre ces deux épisodes-là. Puis les parallèles continuent avec le jardin. Comme j'avais mentionné tantôt, c'est un jardin sur une montagne. Il y a aussi la coupe qui est bue dans l'agonie dans le jardin. Jésus dit qu'il ne veut pas voir la coupe, il veut que la coupe... que la coupe passe, alors que pendant la crucifixion, il y a soif puis il boit la coupe finale. Dans le cas de l'agonie, il dit il va quand même faire la volonté du Père, même si il y a mieux que la coupe passe. Puis ça va être consommé pendant la crucifixion. Après ça, Jésus sue du sang. Et pleure. Donc, il y a du sang et de l'eau comme à la crucifixion. Puis, ça, je ne me rappelle plus c'est quoi cette note-là. Il y a définitivement plein de parallèles dans le texte entre la flagellation et le portement de la croix. Mais si on se repense à la structure que j'ai mentionnée plus tôt de base du casque ou dans l'étape B et B prime, là, ou ici G prime, ce qu'on voit, c'est comme la séparation et l'union. Donc, ce qu'on avait initialement dans le mystère douloureux, c'est que Jésus est comme séparé de la souffrance qu'il subit passivement, versus ensuite, il l'intègre en portant lui-même sa croix. OK. Donc, ça, c'était les mystères douloureux. Et ensuite, finalement, les mystères glorieux, eux autres vont être autour de la Pentecôte. Où, okay. Là, ce qui va se passer, c'est, on se rappelle, à la Pentecôte, les disciples sont frais démis, là. Ils prient, sont comme persécutés dans la chambre haute, ils comprennent pas qu'est-ce qui va se passer. Puis, Jésus leur envoie l'Esprit. Ça va être D'ailleurs, on peut voir tout de suite le parallèle avec la nativité, là, où Jésus était né au centre des mystères joyeux, maintenant au centre des mystères... C'est ça. Puis, là, les disciples sont pleins de confiance. Là. Ils sont plus les pauvres démunis qui étaient. Là. Maintenant, ils sortent, puis ils proclament, puis il y a des milliers de personnes qui se convertissent. Donc, puis autour de cette inversion-là, on a, disons, une ligne qui est ce qui se passe dans la vie de Jésus, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'Église. Donc, début des mystères glorieux, c'est Jésus qui est ressuscité et ensuite qui monte au ciel. Dans la résurrection, il y a des allusions au jardin encore, là, dans les épisodes où quelqu'un se demande si Jésus, c'est pas le jardinier. Puis c'est aussi la nouvelle vie qui commence, fait que c'est comme la Genèse. Là. Si on se rappelle la structure de base du casque, d'habitude, la A, c'est la Genèse, mais il y a ça qui se passe avec la résurrection.
Oui, oui.
Ensuite, dans l'ascension.
C'est intéressant parce que c'est vrai que, dans le fond, la résurrection, il y a un lien étrange avec l'Annonciation. C'est à cause de l'ange, tu sais, à cause de l'ange qui est dans la tombe, qui dit aux femmes, tu sais, qui annonce aux femmes que le Christ est ressuscité, un peu comme l'ange qui annonce aux femmes. C'est intéressant. Le dernier, en tout cas, résurrection, ascension, Pentecôte, assomption de la Vierge, couronnement de la Vierge. C'est vraiment un chiasme qui est super clair. Là. Tu sais, tu le vois, si tu regardes celui-là, tu vois que c'est très puissant.
Ouais. Je pense que les plus clairs, c'est vraiment ces deux-là. C'est les douloureux et les glorieux. Les joyeux sont un peu plus durs à voir. Mais continuons avec ça. Dans l'ascension, tu as aussi la séparation encore, parce que là, tu as, disons, la tête, Jésus, qui monte, mm-hmm. puis le corps qui reste sur terre. Donc, ouais. On repense à la structure que j'avais dit plus tôt, là, avec la loi qui sépare les Juifs des gentils. Ben là, ici, dans l'ascension, on a la tête qui sépare du corps.
Ouais.
Puis l'inversion, comme j'ai dit, se passe à la Pentecôte, où là, l'esprit descend sur le corps. Donc là, il y a comme le lien entre la tête et le corps.
Après, le corps monte.
C'est ça. Fait que t'as l'ascension, ben Marie qui monte au ciel. Ben, c'est maintenant l'Église qui participe à la structure. Puis finalement, le couronnement de Marie au ciel, que ça c'est eschatologique, là. Nous, on le célèbre, je sais pas si c'est la même chose pour vous, on célèbre ça 8 jours après l'Assomption. Puis c'est comme, on pense pas que, disons, c'est séparé temporellement nécessairement de quand Marie monte
nous,
au ciel.
On n'a pas, une fête du couronnement. Là. Dans le fond, c'est un peu tous ensemble.
Ah, c'est comme l'Assomption aussi. Okay. Le fait que ce soit 8 jours, c'est pas un hasard d'ailleurs. Là. On pourra parler sûrement de l'octave un jour, là, mais je pense que la caisse va être assez pour aujourd'hui. Mais là, le fait que Marie soit couronnée, t'as l'idée que l'Église est couronnée, l'Église maintenant participe au complet à la résurrection. Donc, on pense que Marie, quand elle est morte, elle n'a pas connu la décomposition comme les humains précédents, puis probablement tout le monde ensuite. À part peut-être, je pense, Enoch qui était, en tout cas, à part peut-être quelques personnes, mais bref, Marie, comme tout de suite, participe à la résurrection. Puis eschatologiquement, ben, elle est couronnée, c'est la reine de la création. Donc, c'est le cas des mystères joyeux, puis, des mystères glorieux. Puis, on peut. Je trouve ça quand même intéressant, même si c'est plus académique, de regarder le gros casque, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a des parallèles clairs entre les mystères si tu les organises linéairement comme ça. C'est évident, pour revenir à ce qu'on avait dit plus tôt, là, qu'il y a un chiasme dans, disons, si on fait juste un chiasme en trois, là, autour de l'histoire de la semaine sainte, de la douleur, tu as un chiasme pour passer des mystères joyeux aux mystères glorieux, là, pour passer, disons, de la vie du monde actuel à la vie du monde à venir, ben, ça se fait autour de la passion. Fait, à grande échelle, c'est sûr que tu as ce chiasme-là, mais on peut le décomposer plus précisément aussi. Donc, on regarde au début, l'histoire commence avec l'Annonciation. Où, OK, on a l'histoire de l'incarnation qui commence, puis Il y a, ça c'est un peu académique, là, mais dans le cantique, des cantiques, on parle du couronnement du Fils par la chair. Là. Il y a un genre de couronnement de Jésus dans l'incarnation en soi, là, qui vient se faire de la création un corps. Puis Marie aussi dit qu'elle est la servante du Seigneur dans l'Annonciation.
Ouais.
Alors que Flip, une fois qu'on a passé à travers le chiasme, ben c'est Marie elle-même qui est couronnée à la toute fin de l'histoire. Puis c'est la consommation finale entre la création et Dieu. C'est les noces célestes. Donc, c'est pas juste disons, Jésus qui est couronné de la chair, mais toute la création est couronnée. Puis Marie, au lieu d'être la servante, ben maintenant c'est
c'est la reine.
Ouais. Ensuite, dans l'épisode de la visitation, là, on a parlé, en fait, on a fait un épisode là-dessus, mais Marie représente l'arche qui est en mouvement avec des chants qui vont être analogues à ce qui s'est passé dans le livre de Samuel. Puis, dans l'Assomption, ben, t'as encore Marie qui est en mouvement, l'arche qui est en mouvement. Mais là, au lieu de s'en aller vers la contrée de Judée, voir Zacharie, le prêtre, ben, elle s'élève carrément au ciel. Puis dans les deux cas, il y a la discrétion, là, quand même.
Mais pourquoi la discrétion dans l'Assomption? Qu'est-ce que ça dit?
Ben, c'est quelque chose de caché. C'est juste un autre parallèle de plus.
Ah.
Ensuite, un qui est clair, qu'on avait mentionné déjà plus tôt, là, c'est le cœur du premier chiasme et du dernier chiasme sont analogues. Donc, la nativité avec la Pentecôte, là, la naissance de Jésus versus la naissance de l'Église.
C'est vraiment clair. Là.
Ouais.
C'est comme la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église.
Ouais. Puis même, il y a aussi, c'est vrai, un passage intéressant, c'est que dans le cas de la Nativité, c'est des anges qui vont faire le message, mais dans le cas de la Pentecôte, maintenant, c'est les apôtres qui sont les messagers, qui vont proclamer le message. Puis ça, au lieu d'opérer à travers les étoiles, c'est comme les langues de feu des apôtres. Puis dans les deux cas, par exemple, tu as l'idée qu'il y a, on va chercher l'extérieur, là. Dans le cas de la Nativité, c'était des mages qui venaient de loin, puis qui allaient... qui allait voir Jésus.
Oui. Ben oui, tu vois, c'est drôle, j'avais pas vu. Puis c'est dans la Pentecôte, c'est vraiment ça. Là, c'est là que les peuples entendent la parole.
Après ça, il y a carrément des choses numériques là, qui se passent. Là. Donc, la présentation de Jésus au temple, c'est après 40 jours après la nativité. Même chose que l'ascension qui est 40 jours après la résurrection. Puis, après ça, salutation et prophétie. Salutation et prophétie et départ. Ouais, là c'est... je sais pas à quel point ça, je trouve que ça fonctionne complètement. Là.
C'est quoi la prophétie dont ça dit « Celui-ci sera pour l'élévation et la chute de beaucoup d'Israël. » Je trouve comme ça, hein?
Ouais. Ouais. Et puis Marie va être percée, là.
Oui, c'est ça.
Puis après, ça, j'ai de la misère à bien m'en rappeler.
Mais dans l'Ascension, il y a comme la prophétie, là, dans le sens que les anges disent aux gens qui sont là, tu sais, qu'il va revenir. Tu sais, ça dit comme il va revenir comme il est parti, là.
C'est vrai.
C'est sûr qu'il y a comme une sorte de prophétie là, qui prépare, parce que tu peux comprendre aussi que la première partie, c'est comme la fin d'une prophétie. Tu sais, voici, les deux prophètes reconnaissent que la prophétie est accomplie. Puis là, les anges, ils font une nouvelle prophétie qui n'est pas encore accomplie, qui est que le Christ va revenir à la fin.
Ouais, ouais. Je trouve ça intéressant parce que c'est, on dirait, tout de suite comme ça, le symbolisme inverse auquel je m'attendrais d'un chiasme, là. En fait, non, j'imagine, c'est normal, c'est parce que c'est vers la fin. C'est malin parce que c'est comme... On est comme à la partie B', genre de chaque chiasme individuel. Je pense que c'est à cause de ça que ça m'inverse. Là. Où d'habitude, tu t'attendrais à la division au début. L'annonce de quelque chose à venir au début du chiasme. Là. Donc, à la partie...
Oui, c'est comme le contraire.
C'est ça. Mais je pense que c'est le contraire parce qu'on est dans la partie B' dans les deux cas. Je pense que c'est juste pour ça. Dans les deux cas, c'est comme deux prophètes versus deux anges. Ce qui est intéressant, tu sais, comme j'avais mentionné plus tôt, il y a une différence avec le cas de... Non, à l'Annonciation, c'est Marie qui parle... C'est là qu'il y a un ange, puis... je mélange. On vient de parler de la Pentecôte et de la Nativité. Dans le cas de la Nativité, c'est là qu'il y avait des anges qui annonçaient, versus la Pentecôte, c'était les apôtres des humains qui faisaient l'Annonciation. Mais là, vu qu'on est dans la partie B', là, c'est l'inverse. Je ne sais pas si c'est clair pour les gens qui sont en train d'écouter au lieu de voir le texte.
Oui, les gens, pour ce podcast-ci, serait mieux de regarder. Là.
Puis, ensuite, dernière chose à mentionner, c'est le recouvrement de Jésus au temple et la résurrection. Ça, je trouve ça...
Ah, c'est vrai que c'est après 3 jours. J'avais oublié qu'il restait là 3 jours dans le temple. Intéressant.
C'est pour ça que je trouve pas ça évident. Peut-être la série de mystères joyeux, des fois, je trouve quasiment que ça fonctionne mieux en chiasme si tu la comprends comme face au mystère.
Complet, oui.
Ouais. Mais en même temps, c'est que c'est dur d'avoir tout dans ta tête en même temps. Remarque, c'est à l'époque, si les gens priaient vraiment, c'est leur 150, je vous salmerie avec tous les mystères, ils l'avaient peut-être vraiment dans la tête, mais j'essaie souvent de le voir en 3 séries de 5 parce que c'est plus simple à avoir dans ta tête que d'avoir les 15.
Ouais.
Mais bon, recouvrement de Jésus au temple après 3 jours d'absence, c'est clairement relié à la résurrection après 3 jours de mort. Ensuite, les gens ont de la misère à comprendre Jésus quand il manifeste sa filiation divine au temple, là, quand il dit qu'il fallait qu'il soit à la maison de son père. Les gens ne comprennent pas tout à fait, mais à la résurrection aussi, là, quand les gens le voient, c'est même pas juste au tombeau, mais ensuite, les gens ont vraiment de la misère à comprendre les paroles de Jésus quand il révèle qui est réellement et ce qui vient de se passer. Mm. Dernière chose, on en avait déjà parlé un peu, mais la relation entre le Père et Jésus, puis Jésus et les anciens, les prêtres, est réordonnée temporairement quand il est au temple à 12 ans. Mais dans le cas de la résurrection, là, la relation de toute la création est réglée définitivement. Donc, ça, c'était le gros chiasme.
Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis toi, t'es arrivé à... T'as comme vu ça un peu, t'as eu l'intuition que c'était construit comme ça.
Ouais, parce que j'avais réédité les articles de Cormac en anglais, fait que j'avais la structure dans la tête. Puis, tu sais, avec juste... Si je faisais juste... En fait, c'est la plupart des journées normales, là, ce que tu fais, que beaucoup de catholiques font, là, c'est que tu pries un des chapelets. Donc, tu sais... Puis, on pourrait peut-être en parler un jour, là, mais ça fait un octave dans la semaine aussi, là, où t'as les mystères... D'habitude, mettons, nous, ça va aller du dimanche au jeudi, il va y avoir un chiasme dans la semaine autour de mardi, qui est les mystères douloureux. Donc, un chiasme qui se fait comme ça. Puis, ensuite, de vendredi à dimanche, là, ça va être l'octave qui va se terminer avec mystère joyeux, douloureux, glorieux. Bon, mais l'octave, c'est une autre affaire qu'on pourrait parler plus en détail. Mais ça pour dire que d'habitude, t'en prends juste un chapelet par jour. Mais c'est recommandé de temps en temps, par exemple, à des occasions spéciales où c'est une fête de Marie ou quelque chose, de faire un rosaire au complet qui est comme les 3 chapelets, l'un après l'autre. Puis là, en les disant comme ça, en faisant les 15 mystères, c'est là que je me suis rendu compte, hein, ça, on dirait que ça fait un chiasme, cette affaire-là. J'avais pas toute la structure dans la tête en même temps, mais c'est très méditatif.
Tu avais l'intuition, tu voyais des échos. Là.
C'est ça. Parce que, tu sais, c'est quand même répétitif, là, quand tu dis tes « Je vous salue Marie », à un moment donné, l'un après l'autre, t'es quand même capable de réfléchir un peu, méditer un peu sur les mystères autour.
Mais comment ça marche, les mystères? Je sais même pas. C'est quoi ça veut dire qu'il y a des mystères impliqués? Est-ce que c'est juste penser à l'histoire ou tu médites sur ça? C'est quoi?
Ouais, ben, mettons, je peux dire concrètement à quoi ça ressemblerait. Tu sais, début du Jésus seul Marie, début du chapelet au complet, là, tu pries un credo, un Notre Père, 3 Jésus seul Marie. Puis là, tu sais, il y a moyen d'interpréter ça différemment, mais globalement, c'est une façon, tu sais, comme d'introduire le chapelet. On pourra en parler plus une autre fois. Mais ensuite, là, première série de mystères, tu fais juste comme penser un petit peu au mystère. Fait que disons qu'on ferait... Aujourd'hui, c'est mercredi, disons qu'on faisait les mystères glorieux. Ben, tu penses à la résurrection un petit peu. Peut-être que t'offres une intention pour quelqu'un relié à ça, là, peut-être, je sais pas, la santé de quelqu'un ou à la Convention du Québec, je sais pas. Puis ensuite, tu fais tes 10 Je vous salue Marie en pensant un petit peu à l'intention slash le mystère. Puis en priant ça, à un moment donné, je me suis rendu compte, hein, j'ai l'impression qu'il y a un casse maintenant. Donc là, je suis retourné chez nous, j'ai essayé de réfléchir, d'écrire un peu. Puis j'avais trouvé, en fait, ce casse-là, je l'avais trouvé en anglais. Le gros de 15, là, j'avais trouvé. Mm-hmm. Je m'étais dit, il y a sûrement quelqu'un qui l'écrit. Puis effectivement, j'avais trouvé une version de ça en anglais.
Mais déjà, il y a deux personnes qui ont vu que c'est un casse.
Oui, oui, il y a déjà des gens qui ont vu que c'est un casse. Mais des gens qui vont faire des casse comme ça, là, de, tu sais, linéaires, là, il y en a plein. Là, pour plein d'affaires dans la Bible, il y en a. Je te dirais, la chose que j'essaie de faire qui est un peu différent, puis ça vient surtout de Cormac, là, c'est, tu sais, de pas juste en restant à des structures linéaires comme ça, qui sont intéressantes littéralement, mais que ça peut être dur de voir le sens cosmique. Mm-hmm. Selon Cormac, c'est bien
de penser comme ça. Ouais.
De penser en cinq, là. Ouais. Ouais, parce que ça peut vraiment rentrer dans la tête des gens puis travailler de façon inconsciente. Quelque chose de 15, c'est plus dur.
Ouais, ça.
C'est vraiment plus
difficile. Ouais, c'est trop ou c'est gros.
Puis, tu sais, ça joue sûrement un rôle quand même parce qu'il y a plusieurs livres de la Bible qui suivent quand même des casques qui sont des fois très compliqués. Puis, selon des gens qui ont regardé ça comme Cormac, ils pensent que plusieurs des livres de la Bible ont été écrits par des gens qui savaient quand même comment composer littérairement des chiasmes.
Non, mais c'est aussi que les gens réalisent pas que quand tu pratiques à quelque chose, à un moment donné, tu le fais juste automatiquement. Mm-hmm. C'est la même raison que les gens qui connaissent bien la musique sont capables d'improviser la musique. L'espèce d'habileté poétique que les gens avaient avant, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficulté à imaginer aujourd'hui. Tu sais, les bardes qui ont comme plein de formules poétiques puis sont capables de composer un poème en improvisant, bien, ces gens-là, ils vont se retrouver intuitivement, pour la même raison que tu es capable de suivre un beat quand tu fais de la musique, ils vont avoir ce beat-là qui est comme intégré dans leur pensée. Fait qu'ils vont, possiblement que c'est pas toujours nécessairement conscient, peut-être des fois ça l'est, c'est seulement quelque chose de naturel qui apparaît, là.
Ouais, puis même, si je peux dire, parce que moi, ça fait une couple d'années que je connais ce genre de choses-là à cause de Cormac. Puis quand j'écris un texte, j'y pense un peu, des fois consciemment, ouais. Des fois inconsciemment. Mais mettons, quand j'ai écrit mon livre, puis maintenant, je reconnais ça dans plein de livres d'ailleurs. Là. C'est vraiment normal. Tu commences avec une genèse, là. Tu commences avec un genre de problème et suggestion. Puis après, dans presque tous les livres, là, ce qui se passe, là, c'est tu commences à faire des distinctions, puis à expliquer qu'est-ce que tu fais différent, c'est quoi les problèmes. Puis là, tu es comme en train de creuser un. C'est quasiment juste creuser. Là. C'est pas en train de se régler tout de suite. Puis à un moment donné, tu proposes quelque chose. C'est comme,
tu commences à ramener ensemble.
C'est ça. Puis souvent, c'est un genre d'inversion. Là. Mettons, dans les livres que j'aime le plus, souvent, c'est là que c'est comme un peu... comme le livre de C.S. Lewis, Miracles, où dans mon livre, j'essaie de répliquer ça aussi. Là. Ce que je dis, c'est comme, OK, je vous suggère tel mystère central pour tout expliquer. Puis là, c'est un genre d'inversion étonnante, là, l'histoire de l'incarnation, par exemple. Puis ensuite, ce que je fais, le reste du livre, c'est juste, tu retraverses à l'envers les problèmes que tu avais trouvé, oui, mais là, tes règles. Puis c'est vraiment, tu sais, en philo, c'est super commun comme structure. Puis je pense que le plus des gens font ça sans s'en rendre compte, mais ayant lu les articles des Cormac, moi, j'avais ça dans la tête, puis je trouve ça très naturel. Fait. C'est comme, je pense, dans la Bible, des fois, il y en a où, comme tu dis, je pense aussi un mélange de ça. Là. Des fois, c'était conscient, des fois, c'était inconscient, mais ça fait que je trouve ça le fun de voir les deux. Là. OK, oui, je pense qu'on peut s'arrêter, disons, académiquement, voir des gros casses très compliqués, mais ça vaut aussi la peine de les décomposer en série de chiasmes plus simples. Il y a d'autres structures aussi, là. Il y a l'octave qu'on peut peut-être parler une autre fois, mais en connaissant quelques structures, tu peux les organiser de façon fractale. Pas obligé d'avoir juste une grosse ligne, dans le fond. Une autre façon de le dire, là. Ça, c'est linéaire, c'est pas vraiment fractal. Tu peux aussi organiser comme des chiasmes dans des chiasmes dans des chiasmes, puis c'est probablement plus comme ça que la mémoire des gens fonctionnait. Là.
Oui, oui. Ah, mais c'est super intéressant. Jean-Philippe, j'avais jamais pensé à ça. Je connaissais même pas, tu sais, je connaissais pas les mystères, je connaissais pas rien. Fait que j'apprends un peu par rapport à ça. Quoi.
Mais bon, c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire sur le chapelet. Comme je dis, c'est les 15 séries de mystères qui ont émergé dans l'histoire de l'Église, on ne sait pas trop comment. Ils ont fini par être codifiés puis approuvés par Rome, etc. Puis maintenant, les gens ont pris ça. Mais vu que c'est quelque chose qui est émergé par piété populaire, naturellement, mais ça a une forme de forme
chiastique. C'est une tendance à avoir cette structure-là. C'est vraiment intéressant. En tout cas, merci. Tu m'as vraiment enseigné quelque chose. Je vais continuer de méditer. On va essayer de méditer, voir s'il y a comme un chiasme dans la prière comme telle. Ce serait intéressant d'y penser à ça. Mais merci, Jean-Philippe. C'est vraiment fun.
Parfait. Merci, Jonathan. Merci tout le monde. Puis on se reverra dans quelques semaines pour le prochain. Bye-bye.